Chers amis des cellules, bonjour. Nous allons terminer aujourd'hui notre lecture de la lettre pastorale de Monseigneur au Petit. Nous avions vu la fois dernière la volonté de Monseigneur au Petit de reconstruire la fraternité, une fraternité qui soit au service du peuple de Dieu, mais aussi au service du salut du monde. Monseigneur au Petit s'interrogeait sur la manière et les moyens d'être au service de la vocation de chacun et de l'accomplissement des dimensions du baptême, prêtre, prophète et roi. Comment est-ce que nous aidons chacun à exprimer cette manière particulière qu'il a d'être la totalité du Christ? Comment nous aidons les fidèles à vivre leur vocation royale pour le monde? Après avoir évoqué divers lieux où les personnes cherchent du sens à leur action, un conseil sur la manière d'agir ou d'éduquer, comment allons-nous à la rencontre de ceux qui ne nous demandent plus rien, pour reprendre une expression du cardinal André XXIII? Cette réflexion est appelée à être menée au moyen du principe de subsidiarité, où chacun donc porte toute la responsabilité qu'il est en mesure d'assumer. L'objectif est que clercs, consacrés et laïcs travaillent ensemble et s'enrichissent mutuellement dans un esprit fraternel pour contribuer pleinement à cette mission universelle. Je reprends la lecture. Le Seigneur Jésus nous a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Cette amitié divine qui dépasse tout ce que l'imagination humaine aurait pu espérer nous conduit à comprendre que nous sommes d'abord une religion de l'amitié. À partir de la fraternité qui existe entre nous en raison de notre filiation divine, qui nous conduit tous à avoir un même Père, nous avons à cultiver l'amitié avec chacun. Monseigneur au Petit relève ici une caractéristique des disciples de Jésus. Ils sont les amis de Jésus. Ils vivent une amitié entre eux parce qu'ils sont devenus les amis de Jésus. Cette amitié désigne la qualité du lien qui unit les disciples à Jésus et qui les unit entre eux. C'est ainsi qu'il parle d'une religion de l'amitié. D'une certaine manière, cette amitié devient le signe visible de la réalité des liens qui nous unissent. Cette amitié s'ancre dans la fraternité qui existe entre nous, en raison de notre filiation divine, parce que nous sommes devenus fils du Père par le baptême. Ce don et la conscience de ce don nous donnent de cultiver l'amitié avec chacun. Le chacun désigne d'abord les baptisés. Pourquoi puis-je vivre l'amitié avec eux? En quoi puis-je avoir confiance que cette amitié est possible? Parce que nous avons un même Père. Ce qui signifie que nous sommes portés par un même amour, par l'amour du même Père, lui et moi. C'est ce même amour que nous porte le Père qui permet de faire un pont entre nous, au-delà de la réaction un peu spontanée que je peux avoir en regardant l'autre, au-delà même aussi des blessures de l'histoire qui ont pu survenir entre nous. La relation est possible par cet amour du même Père qui nous unit. Je reprends la lecture. Cette amitié fondée sur la gratuité du don doit permettre à celui qui n'arrive pas à franchir le seuil de nos églises d'être accueilli gratuitement dans une profonde bienveillance. Cette fraternité, au service de la mission, nous entraîne à construire des lieux seuils pour que ceux qui ne nous demandent plus rien se sentent bienvenus simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Monseigneur au Petit souligne ici que la fraternité qui doit exister au sein de l'Église est appelée à s'ouvrir avec bienveillance à ceux que nous rencontrons et qui ne demandent même plus rien à l'Église. Elle doit non seulement nous entraîner à une profonde bienveillance pour ceux qui viennent à l'Église, qui demandent à être accueillis, mais plus encore, elle nous oblige à inventer des lieux seuils, pour que ceux qui ne nous demandent plus rien se sentent les bienvenus. Cela signifie que ce n'est pas une bienveillance conditionnelle. Tu es le bienvenu si tu fais ceci, tu es le bienvenu si tu fais cela. Non, tu es le bienvenu tel que tu es, et le Père nous invite à te témoigner son amour, à te faire découvrir cet amour qu'il a pour toi. Je reprends la lecture. Sans doute faudra-t-il repenser la manière dont nous accueillons ceux qui s'adressent encore à nous, mais suivant l'intuition et le désir du cardinal André 23, il nous faudra faire davantage, en élaborant en fonction des possibilités de chacun, et par la grâce de communion toujours accessible, des lieux d'accueil gratuits où l'on peut vivre la fête, la dimension artisanale et artistique que chacun porte en soi, la recherche spirituelle ou intellectuelle qui marque notre époque désorientée, enfin bref, des lieux où se manifeste la joie de l'Évangile. La pointe de ce paragraphe est l'appel à concevoir, à créer des lieux d'accueil gratuits qui vont à la rencontre des aspirations du cœur de ceux que nous croisons. Aspiration à la fête, aspiration à créer quelque chose de leurs mains, à produire quelque chose de beau, mais aussi fournir des repères spirituels, intellectuels, pour notre époque désorientée. Ces lieux sont appelés à manifester la joie de l'Évangile, justement parce qu'ils permettent de découvrir l'amour inconditionnel de Dieu, la capacité de l'homme à porter un bon fruit en recevant des repères, des lumières sur notre façon de vivre et d'habiter ce monde. Je reprends la lecture. C'est avec vous tous, dit l'archevêque, que je souhaite approfondir et mettre en œuvre ces deux visions pastorales, les fraternités missionnaires et l'accueil inconditionnel de tous, qui restent profondément liés. Notre archevêque souligne donc les deux axes de la vision pastorale, les fraternités missionnaires d'une part, et l'accueil inconditionnel de tous d'autre part. Je reprends la lecture. Il est nécessaire de construire de plus en plus des lieux de fraternité fondés sur la vie sacramentelle et le partage des saintes écritures, qui, comme on le voit déjà dans bien des lieux, se déploient avec bonheur pour nous permettre de devenir davantage ce que nous sommes, les disciples du Christ. Il s'agit d'approfondir notre relation personnelle avec lui, de scruter ensemble la parole de Dieu, en recevant des autres une lumière bienfaisante, en se mettant ensemble sous la motion de l'Esprit-Saint, d'édifier la communion par une liturgie joyeuse et profonde qui respecte l'acte divin. En vivant cela, nous pourrons construire une authentique fraternité qui sera le reflet de la présence du Christ au milieu de nous. Ce passage fait en fait écho à ce que le Christ dit lorsque il enseignait « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Pourquoi ? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a dit. Ainsi, les lieux de fraternité sont donc fondés sur cette vie sacramentelle où l'amour du Père se révèle, où le Christ nous révèle l'amour du Père, sur le partage des saintes écritures, où nous apprenons justement à découvrir la vie du Christ, lui-même image du Père, mais aussi où, en nous mettant sous la motion de l'Esprit-Saint, nous nous éclairons les uns les autres grâce à l'Esprit-Saint à travers l'étude commune et le partage de la parole de Dieu. J'insiste, nous recevrons les uns des autres une lumière bienfaisante en nous mettant ensemble sous la motion de l'Esprit-Saint. Relevons donc que nous ne sommes pas appelés pour bâtir cette fraternité à chercher ce que je pourrais appeler le plus petit dénominateur commun qui serait du coup commun à nous les chrétiens et commun aux autres personnes que nous rencontrons. Nous sommes appelés à être ancrés profondément dans notre foi, dans le partage des Écritures, dans la célébration de la liturgie. Ce n'est qu'en étant authentiquement chrétiens que nous serons ce reflet de la présence du Christ au milieu de nous. Nous ne sommes pas appelés à nous enfouir, nous ne sommes pas appelés à devenir invisibles, mais à édifier notre communion par une liturgie joyeuse, profonde, qui respecte l'acte divin. Cette liturgie, d'une part, édifie notre communion et d'autre part, est un témoignage vers l'extérieur. Je reprends la lecture. Mais une telle fraternité de disciples du Christ ne peut être que missionnaire, dans le sens où elle s'ouvre à tous de manière inconditionnelle. Loin de nous enfermer dans un entre-soi mortifère, elle nous oblige à cette amitié universelle envers tous les hommes, en mettant en place dans nos lieux pastoraux de nouvelles propositions qui attirent pour montrer que l'Église a été voulue par le Christ pour le bien de tous les hommes. C'est bien par attraction que se répand le message évangélique, comme le rappelle le pape François dans son encyclique « La joie de l'Évangile ». Dans ce paragraphe, Mgr Aupetit souligne que le souci missionnaire fait partie de l'ADN du chrétien. Cette fraternité que le Christ nous invite à bâtir entre nous est une fraternité qui est ouverte, qui est appelante, qui se manifeste comme étant destinée à tous les hommes. Elle est vécue au sein de la communauté chrétienne pour que tous les hommes puissent y goûter. L'Église a été voulue par le Christ pour le bien de tous les hommes, et c'est pour cela que nous sommes appelés à cette amitié universelle, pour que les hommes puissent comprendre que l'Église a été voulue par le Christ pour leur bien. Je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental et duquel nous devons être persuadés. L'Église, la connaissance du Christ, est vraiment le bien pour toute l'humanité, pour chaque homme. Quand bien même il aurait déjà une spiritualité, quand bien même il nous dirait « mais moi la spiritualité ça ne m'intéresse pas », le Christ est vraiment son bien. L'amitié avec le Christ est vraiment sa joie, c'est vraiment fait pour lui. Il ne le sait peut-être pas, il n'en a pas conscience, mais vraiment cette amitié avec le Christ est faite pour lui. La révélation de l'amour inconditionnel du Père est faite pour lui. J'insiste là-dessus parce qu'il nous arrive de ne pas en être persuadés, de voir tel ou tel visage et de nous dire « ah non, ça c'est pas pour lui, un autre peut-être, mais lui certainement pas ». Nous nous faisons parfois des a priori, parfois ces a priori sont motivés par la peur, c'est que je suis pas sûr d'être bien reçu. Nous pouvons demander cette grâce d'être convaincus que la révélation du Christ est vraiment le trésor que Dieu veut partager à tout homme, parce que là se trouve la joie et l'accomplissement du cœur humain. Je reprends la lecture. Nous devons pouvoir lancer des initiatives nouvelles et parfois surprenantes pour répondre à un tel défi. J'ai employé ce mot peut-être incongru de « start-up du bon Dieu » pour dire combien nous avions à nous laisser guider par le Saint-Esprit dans les temps nouveaux que nous avons à vivre. C'est ainsi qu'ayant constaté la grande détresse de beaucoup de nos contemporains, j'ai lancé ces grandes prières de guérison et de délivrance auxquelles ont répondu tant de gens d'origines diverses. Voilà pourquoi nous réfléchissons également à la manière dont nous pouvons servir nos frères humains dans les grands bouleversements de l'exercice médical, en particulier de la chirurgie ambulatoire, qui va modifier complètement notre présence dans les hôpitaux et dans l'accompagnement des personnes malades à leur domicile. Chacun d'entre nous doit être attentif aux évolutions de notre société qui se transforme avec rapidité et peut déconcerter beaucoup d'entre nous. Dans ce paragraphe, Michel Aupetit exhorte au lancement d'initiatives nouvelles. Il cite celles qu'il a pu déjà lancer, les grandes prières de guérison et de délivrance, et il nous appelle à être attentifs aux besoins de nos contemporains pour que nous devenions force de proposition pour éclairer les évolutions de notre société. Je reprends la lecture. Quelle force de proposition pouvons-nous être dans la communication, dans les nouvelles formes de travail, dans le domaine de la solidarité, dans la formation des consciences et des intelligences, dans la recherche du sens de la vie? C'est là que nous sommes attendus et que nous deviendrons missionnaires en portant un message lumineux, non seulement dans son expression écrite ou orale, mais dans la réalité de nos existences et dans la façon dont nous vivrons entre nous l'Évangile que nous avons reçu comme un trésor à partager. Mgr Aupetit évoque ici des lieux à réfléchir pour que nous soyons force de proposition. Comprenons bien, hein, être force de proposition, ça veut dire que je me pose la question, moi, là où je vis, avec les personnes que je rencontre, je me rends compte peut-être que c'est sur ce point que leur conscience a besoin d'être éclairée, ou je me rends compte dans le domaine de la solidarité que, eh bien, dans ma rue, il y a telle action qui pourrait être menée, ou en discutant avec un tel, je vois que il y a des éléments du sens de la vie que je pourrais lui apporter. Chacun est appelé justement à découvrir la lumière, le secours qu'il pourrait apporter, et à le partager avec d'autres, à partager sa réflexion, son observation avec d'autres. Je termine la lecture. Je souhaiterais, dit l'archevêque, que pendant cette année, nous puissions tous nous emparer de ce sujet important, afin de voir comment chacun, en fonction de ses charismes, de sa disponibilité, de ce qui est déjà heureusement construit dans ce sens, puisse déployer et innover audacieusement à partir des richesses existantes et du don de Dieu. Cette fraternité des disciples du Christ, toujours à construire pour servir au nom de l'amitié divine, une société qui, sans le savoir peut-être explicitement, recherche cette joie profonde d'une fraternité universelle où le Christ sera tout en tous, comme le dit saint Paul. Dans ce dernier paragraphe, Monseigneur au Petit nous invite à tous nous emparer de ce sujet important, et ce, dans la confiance justement que le don de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, nous inspirera. Et donc que chacun d'entre nous, nous ne nous censurions pas en nous disant « Ah non, c'est d'autres que l'Esprit Saint va inspirer, mais à moi il ne peut rien dire » ou « Par moi il ne peut rien dire ». Nous sommes appelés à croire que l'Esprit Saint veut nous inspirer pour pouvoir découvrir quelle est la volonté du Père, la volonté du Père pour développer cette fraternité universelle pour laquelle le cœur de l'homme a été fait. Au terme de cet enseignement, retenons peut-être tout particulièrement les deux axes mis en avant par Monseigneur au Petit. Le premier axe, constituer ces fraternités en approfondissant notre relation personnelle avec le Christ, en scrutant ensemble la parole de Dieu, en célébrant ensemble une liturgie joyeuse et profonde qui respecte l'acte divin, avec la volonté que cette fraternité développée entre nous soit ouverte et accueillante à tous. Et cela ouvre au deuxième axe, l'accueil inconditionnel de tous, mais qui est un accueil inventif, un accueil qui se dit quels sont les lieux à mettre en place, les actions à mettre en place pour aller à la rencontre de ceux qui peut-être ne nous demandent plus rien, mais qui pourtant aspirent à la beauté, aspirent à la vérité, aspirent à découvrir l'amour inconditionnel du Père pour eux. Que chacun ait confiance que l'Esprit Saint l'inspire pour trouver et partager ces lieux où cette fraternité missionnaire pourra être vécue. Je vous souhaite de bons échanges.